Ce qu'on peut dire de la situation sanitaire localement, déjà en Biélorussie, en Ukraine et en Russie, c'est que la principale conséquence sanitaire de l'accident, c'est l'explosion des cancers de la thyroïde chez les enfants, en tout cas ceux qui étaient âgés de moins de 18 ans au moment de l'accident. Ces cancers de la thyroïde, ils sont dus au fait que ces enfants ont été exposés principalement à de l'iode 131, qui était un des éléments radioactifs qui ont été rejetés de la centrale de Tchernobyl. Et en consommant du lait contaminé par l'iode 131, cet iode a la propriété de venir se concentrer au niveau de la thyroïde. Il y a eu 6848 cas de cancer de la thyroïde et il n'y a aucune autre raison dans ces régions qui permet d'expliquer cette explosion des cancers de la thyroïde chez les enfants, si ce n'est les retombées de l'accident.
Et en ce qui concerne les autres types de maladies ?
Pour ce qui concerne le reste des pathologies, les statistiques aujourd'hui, 30 ans après, montrent qu'il n'y a pas d'augmentation des autres types de cancers, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Le seul cancer pour lequel on commence à avoir un point d'interrogation, c'est le cancer du sein, et notamment le cancer du sein chez les femmes qui vivent sur les territoires contaminés en Russie. Ça reste à confirmer, sachant que jusqu'à présent, le cancer du sein n'était pas connu comme étant un cancer qui pouvait être provoqué par une exposition sur le long terme à la radioactivité. Donc pour la population générale, c'est ce qu'on peut dire 30 ans après. Il n'y a pas de conséquences sanitaires observées en dehors des républiques touchées, Biélorussie, Ukraine et Russie. Sachant néanmoins qu'il faut toujours rester prudent parce que les conséquences sanitaires d'une exposition à la radioactivité, elles ont la particularité de mettre plusieurs années, voire plusieurs décennies à apparaître. Et par exemple, un cancer de la thyroïde dû à la radioactivité peut se développer jusqu'à 40 ans après l'exposition.
Outre les enfants, quelles populations ont également été touchées ?
Principalement les pompiers qui sont allés, par exemple, déblayer le toit du réacteur numéro 3 pour éviter que ce réacteur numéro 3 à proximité du réacteur numéro 4 soit lui-même touché par une explosion. Donc chez ces liquidateurs, dont le nombre est estimé à 530 000, dans les mois qui ont suivi l'accident, il y a eu 134 liquidateurs qui ont présenté ce qu'on appelle un syndrome d'irradiation aiguë. Un syndrome d'irradiation aiguë, c'est une maladie qui se développe lorsqu'on a été exposé de façon homogène, corps entier à la radioactivité. Et en fait, c'est une conséquence d'une exposition de la moelle osseuse. Sur ces 134 liquidateurs, il y en a 28 qui sont décédés dans les 4 premiers mois qui ont suivi l'accident. Mais on a d'autres liquidateurs qui sont décédés d'arrêt cardiaque ou de cirrhose du foie ou d'autres traumatismes qui sont a priori pas forcément liés à l'exposition à la radioactivité. Ces liquidateurs, ce qu'on observe aujourd'hui, 30 ans après, c'est une augmentation des leucémies. Et la leucémie est connue comme étant une maladie qui peut être due à une exposition à la radioactivité. Et puis on a observé également des pathologies qui sont non cancéreuses, en particulier des cataractes. Ce que l'on a appris de l'accident, c'est que finalement ces cataractes pouvaient apparaître, pouvaient se développer, y compris à des doses finalement relativement faibles. Et puis un autre type de pathologie non cancéreuse dont on a observé récemment l'augmentation chez ces liquidateurs, ce sont les pathologies de type cardio et cérébrovasculaire. Et cette observation, elle est quand même confortée par le suivi des survivants des bombardements de Nagasaki et Hiroshima, chez qui on a très récemment observé également une augmentation de la mortalité par maladie cardiovasculaire.
Comment est-ce que, très concrètement, elle s'est effectuée, cette contamination ? À travers quoi ? De quelle façon ?
Pour l'accident de Tchernobyl, il y a eu deux modes d'exposition. Immédiatement, et surtout pour les liquidateurs, ces personnes ont été exposées au rayonnement externe, c'est-à-dire ils ont été irradiés. Ils étaient à proximité du réacteur. Il y avait des radionucléides qui émettaient des rayonnements qui sont venus toucher ces personnes-là et qui ont donc détruit des cellules dans les tissus de ces travailleurs. Et la destruction de ces cellules a entraîné l'apparition de certaines pathologies. Ça, c'était le mode d'exposition dans les premiers jours après l'accident. Et c'est ce mode d'exposition qui était observé après les bombardements de Nagasaki et Hiroshima. Donc c'est un mode d'exposition que je qualifierais entre guillemets de coup de soleil, c'est-à-dire que quand vous êtes exposé au soleil, tant que vous restez exposé, vous risquez d'avoir un coup de soleil ou de souffrir de brûlures Mais dès que vous vous mettez à l'ombre, l'exposition s'arrête. Dans le mode irradiation, c'est exactement la même chose. Tant que vous êtes à proximité, vous continuez à être exposé. Et puis ensuite, quand vous vous éloignez, vous n'êtes plus exposé.
Et c'est aussi la contamination à travers les aliments.
Dans les semaines, les mois qui ont suivi, les années qui ont suivi, les particules radioactives qui se sont dispersées dans l'atmosphère se sont progressivement déposées au sol. Et le césium-137, essentiellement, et l'iode-131, qui sont les deux éléments radioactifs en quantité les plus importantes rejetées après un accident nucléaire, ces particules se sont déposées au sol, puis au fur et à mesure ont migré dans les, disons, 30 premiers centimètres de la couche du sol. Et des territoires ont été donc contaminés durablement, parce que le césium-137 met 30 ans pour perdre la moitié de sa radioactivité. Et donc les légumes qui poussent sur ces terrains sont contaminés, notamment les champignons, les baies sauvages, et puis indirectement la viande de gibier, parce que le gibier consomme ces champignons ou ces baies sauvages. D'un point de vue quantitatif, c'est une exposition moins importante que l'irradiation. Par contre, c'est une exposition qui est chronique. Elle est durable dans le temps, et tant qu'on n'a pas éliminé par les voies naturelles, donc essentiellement les urines et les selles, cette radioactivité, on continue à être exposé.
À l'époque, en 1986, il y avait eu énormément d'évacués, plusieurs milliers. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la zone de Tchernobyl et autour, l'endroit est aussi dangereux d'un point de vue sanitaire, est aussi invivable?
Les niveaux de radioactivité dans la zone d'exclusion, ils ont assez peu diminué, hein, parce qu'on trouve toujours du césium-137 et on est à 30 ans de l'accident. Ça veut dire que l'activité qui s'est déposée en 1986 pour le césium-137, elle n'a diminué que de moitié aujourd'hui. Donc on reste encore à des niveaux très élevés de radioactivité. Pour parler de l'activité déposée sur les sols, très clairement, il y a encore un niveau de radioactivité qui n'est pas forcément compatible avec un retour des populations, même si ce niveau de radioactivité, il n'est pas du tout homogène. Il faut savoir que lorsqu'il pleut, on favorise le dépôt de radioactivité sur le sol. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si on regarde la cartographie des dépôts de radioactivité, on a une cartographie qu'on dit en tache de léopard, c'est-à-dire qu'on va avoir sur des zones finalement assez proches des niveaux de radioactivité qui peuvent être 100 voire 1000 fois supérieurs d'un endroit à l'autre. Et c'est dû au fait de la présence de précipitations ou non au moment de l'accident. Et puis il y a tous les bâtiments qui ont été les plus touchés par les retombées radioactives. Ces bâtiments, ceux qui n'ont pas été détruits, restent contaminés et durablement.
C'est un bilan extrêmement dramatique.
Que ce soit l'accident de Tchernobyl, et dans une moindre mesure parce que les niveaux de radioactivité sont plus faibles que l'accident de Fukushima, un accident nucléaire, ça impacte de façon très durable les territoires sur lesquels il y a eu des dépôts de radioactivité importants. Il y a des territoires qui sont définitivement condamnés. Il y a certains territoires sur lesquels les dépôts ont été plus faibles qui pourraient être compatibles avec un retour des populations. Et c'est ce que le gouvernement japonais est en train de décider pour ce qui concerne les territoires contaminés par les retombées de Fukushima. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura pendant plusieurs centaines d'années des milliers de kilomètres carrés qui ne seront pas habitables.